Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour. Dans son discours de réception du prix Nobel de littérature à Stockholm en 2014, le romancier Patrick Modiano cite deux strophes du poème « Les cygnes sauvages à Kool » (The Wild Swans at Kool). Il s'agit de Kool Park, la propriété de Lady Gregory dans le comté de Galway, à l'ouest de l'Irlande. Et Lady Gregory était cofondatrice, était une dramaturge cofondatrice avec le poète William Butler Yeats de l'Abbey Theatre. Modiano est désireux d'expliquer la force d'ancrage de son œuvre romanesque dans le Paris de l'Occupation, au sortir de laquelle il est né. Ce poème, composé par le poète irlandais William Butler Yeats, qui a lui aussi obtenu le prix Nobel en 1923, fait dire à Modiano, je le cite, « Ce poème de Yeats n'aurait pas pu être écrit au XIXe siècle. Par son rythme particulier et sa mélancolie, il appartient au XXe siècle et même à l'année où il a été écrit. » En l'occurrence, c'est l'année 1916, la Première Guerre mondiale fait rage, mais c'est surtout l'insurrection irlandaise de Pâques 1916, parfois appelée les Pâques sanglantes, une rébellion nationaliste qui, après une brève occupation de Dublin, se soldera par une défaite. Les leaders, parmi lesquels Patrick Pearse, James Connolly, John McBride, le mari de Maud Gonn, une comédienne et une militante de la cause irlandaise à qui de nombreux poèmes de Yeats seront dédiés, en tout 15 chefs rebelles seront exécutés par les Britanniques. Voici donc ce poème dans la traduction qu'en a donné le poète Yves Bonnefoy. Mais avant de le lire, remarquons que Modiano lui-même, dans son discours, a souligné l'importance du thème du cygne, tout particulièrement dans la poésie française, qu'on songe au cygne de Baudelaire ou au cygne de Stéphane Mallarmé. Le poème, toutefois, ne semble pas faire référence à l'insurrection de Pâques, mais Yeats lui consacrera de nombreux poèmes, parmi lesquels on peut citer « 16 Dead Men » ou « Easter 1916 » ou encore « The Rose Tree ». Voici donc le poème « Les cygnes sauvages à Kool ». C'est la beauté d'automne dans les arbres, sèches sont les allées dans le sous-bois, le lac dans le crépuscule d'octobre reflète la paix du ciel, et sur l'eau débordante parmi les pierres sont les cygnes 59. Le 19e automne a pesé sur moi depuis que j'en ai fait mon premier compte, et les ai vus, quand j'y peinais encore, s'élancer tous d'un coup et en tournant, grands anneaux qui se brisent, se disperser sur leurs ailes bruyantes. J'ai regardé ces êtres de lumière, et maintenant mon cœur souffre. Tout est autre depuis qu'en ce crépuscule de mon premier passage sur ces rives, j'ai entendu le battement de cloches de leurs ailes et marché d'un pas plus souple. Sans lassitude à jamais, deux par deux, ils explorent le froid des courants propices ou gravissent le ciel. Leurs cœurs n'ont pas vieilli. Où qu'ils veuillent errer, la passion, la victoire sont avec eux toujours. Mais pour l'instant, ils se laissent glisser, beaux mystérieusement, sur l'eau tranquille. Ah, dans quel jonc iront-ils nidifier ? Aux rives de quel lac, de quel flash seront-ils le plaisir des yeux quand moi, un jour, je verrai à l'éveil qu'ils se sont enfuis.
The trees are in their autumn beauty. The woodland paths are dry. Under the October twilight, the water mirrors a still sky. Upon the brimming water among the stones are 59 swans. The 19th autumn has come upon me since I first made my count. I saw, before I had well finished, all suddenly mountains scatter, wheeling in great broken rings upon their clamorous wings. I have looked upon those brilliant creatures, and now my heart is sore. All's changed since I, hearing at twilight the first time on this shore the bell beat of their wings above my head, trod with a lighter tread. Unwearied still, lover by lover, they paddle in the cold, companionable streams or climb the air. Their hearts have not grown old. Passion or conquest, wander where they will, attend upon them still. But now they drift on the still water, mysterious, beautiful. Among what rushes will they build? By what lake's edge or pool they light men's eyes? When I awake someday to find they have flown away.
J'ai voulu que vous puissiez entendre, évidemment, la version anglaise de ce même poème. Par ailleurs, Bonnefoy, traducteur de 45 poèmes, c'est le titre qu'il a donné à ce qu'il a recueilli dans la collection NRF Poésie Gallimard. Donc, Bonnefoy, tout comme le traducteur Jean Briat pour l'édition bilingue, elle aussi, publiée dans la collection Point sous le titre La Rose, tous deux étaient conscients non seulement des immenses difficultés de toute traduction, mais encore des principes auxquels elle devait obéir pour espérer trahir le moins possible. Et Yves Bonnefoy d'affirmer, par exemple, dans sa présentation du recueil que j'ai cité, « Il n'est pas bon de traduire, si c'est pour mettre en circulation, ce qui méconnaît que la poésie se joue dans une tension du sens autant que des mots, des signifiés autant que des signifiants. Déjà, la multiplication des traductions aujourd'hui, dont la majorité ne mesure pas assez l'importance des rythmes, de l'allant rythmique des phrases, de l'état chantant, disait Valéry, a-t-elle trop habitué le lecteur à des textes qu'on n'entend plus vibrer dans leur profondeur comme les cordes d'un instrument. C'est comme si on substituait le livret à l'opéra et sans le dire, ni même le savoir. Cet état chantant ne peut être véritablement conservé dans la traduction, ce que montreront à merveille deux courts poèmes de Yeats que je lirai en anglais pour rendre sensible aux rimes et au rythme avant d'en lire la traduction française. Tout d'abord, le poème célèbre, puisqu'il s'agit d'une certaine façon d'une chanson intitulée « Down by the Salley Gardens ». Down by the Salley Gardens, my love and I did meet. She passed the Salley Gardens with little snow-white feet. She bid me take love easy as the leaves grow on the tree. But I, being young and foolish, with her would not agree. In a field by the river, my love and I did stand, and on my leaning shoulder she laid her snow-white hand. She bid me take life easy, as the grass grows on the vares. But I was young and foolish, and now I'm full of tears. Il s'agit donc de la traduction maintenant. Au bas des jardins de Saule, au bas des jardins de Saule, je t'ai rencontré, mon amour. Tu passais les jardins de Saule d'un pied qui est comme neige. Tu me dis de prendre l'amour simplement, ainsi que poussent les feuilles. Mais moi, j'étais jeune et fou, et n'ai pas voulu te comprendre. Dans un champ près de la rivière, nous nous sommes tenus, mon amour, et sur mon épaule penchée, tu poses à ta main qui est comme neige. Tu me dis de prendre la vie simplement, comme l'herbe pousse sur la levée. Mais moi, j'étais jeune et fou, et depuis lors, je te pleure. Un autre poème, encore très court, que je lis là aussi en anglais, intitulé « The 19th Century and After ». Though the great song returned no more, there is keen delight in what we have. The rattle of pebbles on the shore under the receding wave. La traduction donc, le 19e siècle et après. Même si le grand chant ne doit plus reprendre, ce sera pure joie ce qui nous reste, le fracas des galets sur le rivage, dans le reflux de la vague. Peut-être ce poème évoque-t-il deux théories du langage qui s'opposent, d'un côté le cratilisme et de l'autre l'arbitraire du signe. Sans être trop pédant, le cratilisme désigne une théorie qui veut que les mots soient le reflet d'une certaine manière du réel, et il est vrai d'une certaine façon que dans le vers que j'ai lu, « The rattle of pebbles on the shore », on a presque le sentiment d'entendre les galets roulés par les vagues. Un anglophone rendra encore bien mieux compte d'une telle envoûtante musicalité, par exemple dans un autre poème célèbre que vous allez entendre, le poème intitulé « When you are old ».
Down by the sally gardens, my love and I did meet. She passed the sally gardens with little snow-white feet. She bid me take life as the leaves grow on the tree. But I, being young and foolish, with her would not agree. In a field by the river, my love and I did stand, and on my leaning shoulder she laid her snow-white hand. She bid me take life easy as the grass grows on the weeds. But I was young and foolish, and now am full of tears.
Il y a eu de ma part une petite confusion dans l'ordre des choses, puisque vous venez d'entendre, vous aurez sans doute reconnu les paroles, le poème que j'avais lu moi-même précédemment, et là, il est chanté, le poème « Down by the Sally Gardens », et voici maintenant le poème que je vous annonçais, qui s'intitule « When you are old ».
When I am an old woman, I shall wear purple, with a red hat which doesn't go, and doesn't suit me. And I shall spend my pension on brandy and summer gloves and satin sandals and say, "We've no money for butter." I shall sit down on the pavement when I'm tired, and gobble up samples in shops, and press alarm bells, and run my stick along the public railings, and make up for the sobriety of my youth. I shall go out in my slippers in the rain, and pick the flowers in other people's gardens, and learn to spit. You can wear terrible shirts and grow more fat, and eat 3 pounds of sausages at a go, or only eat bread and pickle for a week, and hoard pens and pencils and beer mats and things in boxes. But now we must have clothes that keep us dry, and pay our rent and not swear in the street, and set a good example for the children. We must have friends to dinner and read the papers. But maybe I ought to practice a little now, so people who know me are not too shocked and surprised when suddenly I am old and start to wear purple.
Comme la poésie de Mallarmé, celle de William Butler Yeats est parfois d'un accès difficile, nourrie qu'elle est de légendes, de croyances occultistes, d'imaginaires celtiques et de symboles. Voici ce qu'en dit le poète qui l'a traduit, Yves Bonnefoy. De grands symboles traditionnels sont au cœur de la poésie de Yeats, c'est vrai, et lui-même s'est maintes fois attaché au déchiffrement qu'en proposent, à insistants mots couverts, les sociétés d'occultistes. Mais en cette recherche aussi, on le voit détourné très vite de ce qui ne ferait que bâtir une idéalité sans substance et désireux de rapatrier les symboles dans son existence la plus immédiatement quotidienne, au risque de s'approcher de ce fait d'opérations qui aujourd'hui ne sont plus crédibles. Ce n'est pas pour aboutir à quelques livres mallarméens qu'il propose à l'Hermetic Society de réunir les affirmations des poètes dans leurs plus beaux moments, mais en vue d'une sorte de liturgie avec des velléités de magie blanche. Et on le voit consciencieusement invoquer la lune et noter ses visions de centaures ou de femmes nues apparues la nuit sur des piédestaux, interrogeant sur leur sens ses amis hermétistes ou kabbalistes. Mais, là encore, la lucidité intervient, qui prend la forme d'un retour de la réalité ordinaire dans l'espace spéculatif. S'agit-il d'entrer en contact avec les morts ? Dans All Souls Night, non, Yeats va plutôt s'y remémorer ce qui faisait l'être propre de quelques personnes aimées, non parfois sans agacement. Il s'attarde à ce qui les mobilisait jadis, pathétiquement, contre la pensée du néant. Et c'est au total la compassion sans espoir qui domine dans cet admirable poème, avec cet humour un peu fou qui est la pudeur du courage. Les symboles, mais pour retourner le sol du vécu, non pour lui substituer les mondes du rêve, le soleil couchant, les nuées, mais parce qu'il lui rappelle les destinées héroïques, grandeurs qui ont à sombrer parmi la sottise et les malveillances. Et les signes, chiffre traditionnel de la condition poétique, mais parce que Yeats regarde souvent les signes bien réels de Cool Park qui disent de tout l'éclat de leur pérennité apparente, 20 ans ou presque après sa plus ancienne visite, que le visiteur a vieilli. Le signe de Yeats est d'ailleurs beaucoup moins la blancheur immaculée que la sexualité sauvage, la pulsion aveugle et cruelle. Il ne signifie que l'instinct qui prend le pas sur le souci de la vérité, sur le désir de sagesse, ce qui fait qu'il peut devenir aussi, avec les années, l'épiphanie du non-sens, la même où l'on voit encore les ruines des rêves de transcendance qu'on lui avait associés. Le poème « All Souls Night », traduit par « La nuit de la Toussaint », est trop long pour être lu ici. Lisons alors pour inciter nos auditeurs à parcourir ce que Baudelaire nommait des forêts de symboles, quelques-uns des poèmes traduits par Yves Bonnefoy, comme je l'ai dit. D'abord, le poème intitulé « Trois choses, three things ». Rends-moi trois choses, cruel mort, chantait l'os sur le rivage. Un enfant eut ce qu'enfant cherche de plaisir ou d'heureux sommeil sur l'abondance de ma poitrine. C'est un os blanchi par la vague et desséché par le vent. Trois choses pleines que femmes savent, chantait l'os sur le rivage. Un homme, si je l'étreignais, ainsi, quand mon corps était vie, y trouvait toute joie que donne la vie. C'est un os blanchi par la vague et desséché par le vent. Et la troisième de mes hantises, chantait l'os sur le rivage, c'est ce matin où je vis, face à face, mon vrai amour, et m'étirais ensuite et bâillais heureuse. C'est un os blanchi par la vague et desséché par le vent. Un autre poème intitulé Those dancing days are gone. Les jours dansants ne sont plus. Viens que je te chante à l'oreille. Les jours dansants ne sont plus, qui portaient soie et satin. Accroupis-toi sur la pierre. Enveloppe ce sale corps dans un haillon aussi sale. Je porte le soleil dans ma coupe d'or, la lune en un sac d'argent. Maudit si tu veux, je te chante tout le chant, puisque peu importe si celui qui te donnait joie et les enfants qu'il te fit dorment quelque part comme Loire sous une dalle de marbre. Je porte le soleil dans ma coupe d'or, la lune en un sac d'argent. Aujourd'hui même, j'ai pensé, midi sonnant à l'horloge, comme n'a rien à prétendre, qui s'appuie sur un bâton, mais qu'il peut chanter, chanter jusqu'à tomber, que ce soit devant la jeune ou la vieille. Je porte le soleil dans ma coupe d'or, la lune en un sac d'argent. Encore cet autre poème intitulé « Before the world was made », avant qu'il n'y ait le monde. Si je fais mes cils charbonneux et mes yeux de plus de lumière et mes lèvres plus écarlates, demandant à tous les miroirs si tout est comme je le veux, nulle vanité, je recherche le visage qui fut le mien avant qu'il n'y ait le monde. Et qu'importe si je regarde un homme, tout comme si c'était mon amour, quand pourtant mon sang est demeuré froid et mon cœur ne bat pas plus vite. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Le poème intitulé Les apparitions. À l'abri dans la dérision, j'ai parlé d'une apparition sans essayer d'en convaincre les yeux des gens de raison, tant peu me chaud le bon sens, qu'il soit vaillant ou rusé. 15 apparitions ai-je vues, et la pire, un manteau au porte-manteau. Je n'aurais rien eu d'à demi, aussi bon que tant préparé cette demi-solitude où je puis veiller tard la nuit avec un ami trop discret pour autoriser son regard à me dire inintelligible. 15 apparitions ai-je vues, et la pire, un manteau au porte-manteau. Quand un homme vieillit, Sa joie se fait chaque jour plus profonde, son cœur vide déborde enfin, mais il lui faut bien cette force, puisque la nuit qui s'accroît ouvre au mystère, à l'effroi. 15 apparitions ai-je vues, et la pire, un manteau au porte-manteau. Et enfin, un dernier poème, la désertion des animaux du cirque. J'ai cherché un thème et ce fut en vain. Je l'ai cherché 5 à 6 semaines. Peut-être qu'à la fin, vieux comme je suis, je dois me contenter de mon cœur. Et pourtant, l'hiver comme l'été jusqu'à ce grand âge, ce qu'elle a paradé, ma ménagerie, avec ses mômes qui se rengorgent, et ce carrosse qui brille, et le lion, et la femme, et Dieu sait quoi d'autre. Pourquoi ne puis-je donc ressasser ces vieilleries ? Oisin d'abord, ce chevaucheur des mers qu'on mena par le bout du nez dans les mirages de 3 îles, ses rêves allégoriques. Vaine gaieté, vain combat, vain repos, ce sont des thèmes de l'amertume du cœur, me semble-t-il. Il ferait bien dans de vieilles chansons ou sur des scènes cérémonieuses. Mais pourquoi diable me souciais-je, moi, de le mettre en selle, moi, l'affamé du sein de sa fiancée fée ? Puis une contre-vérité a eu son heure. Je la nommais la princesse Kathleen. Celle-ci, folle de piété, allait sacrifier son âme quand le ciel souverain vint la sauver. Je pensais que la femme que j'aimais allait détruire la sienne, tant la haine et le fanatisme l'aveuglaient. Et cela me valut un rêve, et ce fut ce rêve assez vite qui retint toutes mes pensées, tout mon amour. Et le fou et l'aveugle volaient le pain, Cuculain affrontait la mer intraitable, mystère du cœur, ces choses. Toutefois, je vois bien maintenant que c'est le rêve qui m'enchantait en elle. C'est ce héros que sa prouesse hisse sur les planches pour fasciner le présent et accaparer la mémoire. Aux acteurs, à la scène peinte, tout mon amour et non au sens dont ils étaient l'emblème. Les images sont souveraines de par leur forme achevée. Et celles-ci grandirent dans la pureté de l'esprit. Mais de quoi naissait-elle ? Du dépotoir où va ce que l'on jette et le balayage des rues ? Vieille marmite, vieille bouteille, boîte cassée, vieux fer, vieux os et nippes, et à la caisse, cette souillon qui délire. Mon échelle est tombée, et je dois mourir là, au pied des échelles, dans le bazar de défroque du cœur.
Come away, come away, death, and in sad cypress let me be laid. Fly away, fly away, breath, I am slain by a fair cruel maid. My shroud of white stuck all with you. Oh, prepare it. My part of death no one so true did share it. Not a flower, not a flower sweet on my black coffin let there be strown. Not a friend, not a friend greet my poor corpse where my bones shall be thrown. A thousand sighs to save, lay me away. Sad true lover, never find my grave to weep then, to weep, to weep.
Au cours de cette émission, vous avez pu entendre successivement le poème The Wild Swans at Cool, lu par Cyril Cusack, puis le poème Down by the Sally Gardens, interprété par le baryton basse Bryn Terfel, et c'était la musique de Benjamin Britten. Ensuite, vous avez entendu la lecture par Ben W. Smith du poème When You Are Old. Et enfin, vous avez entendu le poème Come Away Death. Il s'agit d'une chanson shakespearienne du compositeur britannique Roger Kilter, toujours interprété par Bryn Terfel. Je termine en disant que même des poèmes comme Avant qu'il n'y ait le monde ont été interprétés, chantés par des groupes de rock comme Feu Chatterton, et qu'on peut écouter de nombreux poèmes de Yeats lus par de grands comédiens comme Colin Farrell ou Anthony Hopkins. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.